dans une organisation comme celle de cette semaine. Donc, pour ne pas accroître ce retard, je vous demande de vous asseoir très vite. Merci. Et j'ai le plaisir de vous présenter la conférencière qui a la charge finalement difficile de donner un cap à cette semaine en apportant tout de suite des contenus qui vont nous permettre de réfléchir aux questions que j'ai esquissées tout à l'heure. Donc merci à Stéphania, je suis sûr que je vais écorcher et son prénom et son nom, qu'elle me pardonne
vous
tout de suite.
Vous ne m'appelez
pas Broadband. Oui, non, mais c'est vous savez, non seulement c'est ce que j'allais faire, mais en plus c'est ce qu'on a écrit avant de corriger son nos documents. Et je pense que vous êtes souvent victime, mais finalement c'est pas insultant non plus, compte tenu du sujet dont il est question. Donc je vais me cantonner au prénom, comme ça j'ai moins de risques. Donc merci beaucoup à Stéphania Broadbent d'intervenir ce matin. Donc Stéphania enseigne l'anthropologie numérique à l'University College de Londres. Après avoir fait, vous allez voir le côté éclectique et intéressant pour nous de son parcours, des études de psychologie à l'Université de Genève et le parcours surtout international, et un doctorat en sciences cognitives à l'Université d'Édimbourg. Elle a dirigé l'Observatoire des usages auprès de l'opérateur télécom Swisscom. Et elle étudie, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, bien sûr, l'évolution des usages des nouvelles technologies au travail et dans la vie privée, en privilégiant une approche ethnographique. Et pour continuer avec plaisir de prendre connaissance de son travail, je vous recommande le livre qu'elle vient de publier aux éditions FIP et qui s'intitule « L'intimité au travail ». Je vous laisse la parole et je vous remercie. Merci beaucoup, Stéphania.
Donc, bonjour. Donc, je m'assure. Donc, j'ai ce double facette, si vous voulez, la facette cognitive, cognitiviste, et la facette anthropologique. Et au cours, je pense, de cette présentation, vous allez voir que je vais passer de l'une à l'autre, d'une certaine manière, elle illumine un peu ma façon de regarder les événements. C'est pour ça que j'ai décidé d'appeler cette conférence les lieux de l'attention, parce que tout au long, en fait, j'ai l'impression qu'on ne peut pas parler de digital sans parler d'attention. Mais la notion que je veux donner à l'attention va être justement pas une notion cognitive, traditionnelle, mais une notion beaucoup plus sociale. Et je vais essayer de faire une lecture, si vous voulez, des divers espaces physiques et sociaux que nous avons autour de l'attention et comment cela se lie à nos usages des différents outils digitaux. Donc, je commence avec une image qui est vraiment, si vous voulez, la métaphore plus basique que nous avons sur l'attention. Je veux dire, l'idée, c'est nous avons plusieurs inputs sensoriels et un système de traitement de ces informations limité. Et donc, notre attention va être focalisée. Donc, il y a un bottleneck, il y a un goulot d'étranglement quelque part. Nous avons beaucoup ici. Et finalement, nous ne pouvons donner de l'attention très limitée à quelques éléments. Ce modèle qui est aussi un modèle, non seulement un modèle cognitif, très simplifié là, mais aussi est utilisé dans beaucoup de cas avec des métaphores économiques. Donc avec une ressource limitée, une ressource que nous devons dépenser avec attention, nous devons lutter pour cette attention, pour obtenir cette ressource. On parle même d'économie de l'attention, je veux dire attention economy, etc. Donc, moi, ce que je voudrais discuter, ce que je veux vous montrer, que, en fait, ce type de modèle, il a permis, si vous voulez, tout un ensemble d'approches, notre notion même de productivité, ce que nous pensons être le bon travail, et comment nous gérons en plus nos activités de loisirs, hors demande d'attention, et le challenge qu'en fait les outils que nous gérons tous, que nous avons tous autour de plus en plus petits, etc., sont en train de poser sur ce modèle et sur toute la structure, l'infrastructure, si vous voulez, sociale, qui s'est construite autour de ce modèle, un modèle de ce type, cette idée d'une ressource limitée. Donc, pour ce faire, je m'excuse, bon, j'ai eu ce privilège d'être en ouverture de cette semaine. Donc, je ne sais pas comment les autres vont parler. C'est affreux, en fait. Moi, j'aime bien changer, écouter les autres et puis changer à la dernière minute. Et donc, je n'ai pas eu cette possibilité. Et donc, vraiment, on m'a dit, prenez Vast. Je pars de loin, donc je pars de loin, toujours avec cette idée d'attention. Et je veux partir de d'où nous vient cette idée que productivité et attention sont intimement liées. En fait, ça vient d'une période pas si loin que ça. On parle donc mi-19e siècle, quand on a commencé à spécialiser les lieux de travail. C'est-à-dire quand, effectivement, les travailleurs sont partis travailler ailleurs, sur des machines qui étaient ailleurs, donc dans des lieux spécialisés, donc ils n'étaient plus chez eux, donc il n'y avait plus de cette correspondance. Il y a des historiens qui parlent de la correspondance sur les lieux de reproduction et de production, donc tels qu'on avait auparavant, où toute la famille était impliquée dans la production. Donc l'idée même d'économie était une économie domestique où tout le monde était impliqué. Donc on est passé d'une vision de confusion de rôle, d'activité, d'espace, etc., justement à des espaces, par contre, complètement dédiés à la seule activité. Et de nouveau, je passe sur quelques années, quelques centaines de volumes des annales d'histoire, mais c'est à la même période se concrétise aussi l'idée qu'on est payé non plus à, si vous voulez, pour le produit du travail, mais pour la présence et l'activité sur un lieu. Donc on commence à avoir une connexion très nette entre présence, production, attention et isolement, en fait. Parce que l'idée aussi de l'attention commence à être bien reliée au fait que pour être attentif, pour ne pas être distrait, pour être productif, etc., d'une certaine manière, il faut être aussi isolé de tout ce qui est l'espace privé, l'espace familial, etc., etc. Et ce qui est intéressant pour des personnes qui s'occupent d'éducation, c'est que au même moment, j'ai l'impression que aussi il y a eu tout un travail sur la notion d'attention. Qu'est-ce qu'on apprend aux enfants aussi? On apprend à être séparé de leur milieu familial pour des périodes de plus en plus longues, chose qui est toujours présente dans nos écoles infantiles. On habitue les enfants à cet isolement, on les habitue à une attention, on les habitue à être solidaires avec un groupe de copains de classe et plus avec des seulement dans un espace familial, etc. Et on voit effectivement une espèce d'instanciation très trop. Il y a des symboles très clairs qui apparaissent en milieu d'école, qui sont exactement les mêmes qu'on retrouvera en usine. L'uniforme, un certain type de comportement, les rituels d'entrée et de sortie, etc. Donc, comme... Et là, je suis dans le Duby, Ariès, la vie privée, si vous voulez, vraiment culture de sociologie de l'histoire, histoire de la sociologie. Et là, on voit exactement au même moment, on voit le phénomène opposé. Autant on spécialise, si vous voulez, les espaces de travail, autant on fait sortir de la maison, le modèle, on fait sortir de la maison de tout ce qui est productif, actif, et on commence à voir l'image, au début totalement bourgeoise, d'une maison refuge, une maison enfant, femme qui justement ne participe pas à l'activité extérieure, et ce type de modèle, donc d'éloignement, c'est vraiment cette maison refuge qui se manifeste initialement même dans l'organisation même des bâtiments. Ça, c'est une maison typique de fin 19e à Londres, anglaise, où on commence à voir une division très, très claire, même à l'intérieur de la maison, des espaces privés, des espaces publics. Donc, les espaces où des personnes externes peuvent rentrer, et puis les chambres qui commencent à se privatiser. Et je mets ça en exergue parce que je vais vous montrer énormément de cartes, je vais essayer de vous montrer des cartes où la technologie se place dans ce type d'espace. Ce modèle-là, qui était un modèle essentiellement bourgeois au début, a été après généralisé. Ça, c'était un plan de, comment est-ce qu'on dit, une maquette de logement populaire, donc début, beaucoup plus tard, donc début XXe siècle. Mais l'idée, là aussi, avec des chambres séparées, un sous-jour qui est, lui, un espace public un peu bien séparé des chambres, l'entrée, bon, et puis évidemment les services. Mais on retrouve aussi dans les écrits sur la description de ce qui doit être un espace d'un logement étatique, etc. Cette claire distinction entre espaces, disons, où l'extérieur peut rentrer, puis les espaces plutôt privés. Donc, et ça aussi, ça n'a pas eu qu'un impact sur l'espace intérieur. Cette division entre professionnel, espace de production et espace privé s'est manifestée d'une manière très très forte dans l'urbanisme. C'est-à-dire, on voit très bien, ça, c'est un typique urbanisme à l'américaine, mais je veux dire, l'Europe en a plein, où effectivement, on éloigne complètement de plus en plus les espaces de foyers résidents, etc., des espaces commerce, production, bureaucratie, etc. Et de nouveau, on peut contraster, ça suffit je pense, de se balader à Poitiers. Je ne sais pas si les noms se sont gardés, mais si je pense à l'Italie, les rues avaient des noms, la rue des ceux qui faisaient les épées, ou la commission de la vie, etc., était bien présente. Maintenant, effectivement, on a cet éloignement de plus en plus sensible. Et ce qui est intéressant, c'est justement que dans cette division des fonctions, on voit aussi un isolement de plus en plus important du foyer, c'est-à-dire une clôture de plus en plus forte. Je vais commenter aussi, nous on recueille beaucoup de timelines, je ne sais pas comment les traduire, en fait l'emploi du temps d'une journée, etc. Et on s'est rendu compte, il y a une chose qui m'a vraiment frappée, c'est l'absence de personnes, de visiteurs externes aux maisons. En fait, elles sont relativement fermées au physique, pas au digital, mais au physique. Donc on a vraiment cet isolement aussi à l'intérieur du foyer. Alors, donc l'idée forte que je voulais juste vous faire retenir, c'est cette idée que d'un côté, donc, on a une période qui n'est pas si lointaine que ça, en fait, où il y a eu une distinction très claire entre deux espaces, et autour de cette notion de division et spécialisation, il y a aussi une très très forte idéologie par rapport à l'attention. C'est-à-dire que pour être productif, il faut être séparé, isolé, etc. Et cela est d'une certaine manière la base sur laquelle on a encore, et dans les écoles aussi par ailleurs, etc., énormément de discussions sur le digital. C'est autour de cette équation-là que quelque chose de comme ça s'est arrivé. Cette image, elle est vraiment, je l'utilise souvent parce que je trouve vraiment emblématique. C'est quelqu'un qui travaille dans le métro de Londres. Ce qui est intéressant, c'est, je l'ai trouvé sur Flickr, et il y en a plein d'images de ce type, de personnes dans des travaux publics, que ce soit policiers, etc., qui téléphonent ou qui utilisent leur... etc. Et au-dessus, il y a toujours le commentaire « Voilà pourquoi mon métro ne marche jamais. Voilà pourquoi il y a plein de voleurs dans cette ville. » Toujours, il est systématique le commentaire de ce type. Ce type, finalement, il est en train de perdre du temps, mon argent, etc. Et ce qui est intéressant de cette image, donc ce n'est pas l'objet, etc., c'est l'incroyable transformation, l'aspect totalement révolutionnaire de ma part, du fait, parce que je peux vous dire, ayant recueilli des années et des années de petits journaux de bord, et je vais en parler tout à l'heure sur qui appelle qui et à qui sont dirigés les appels, ce que j'ai la presque certitude que ce monsieur est en train d'appeler une des cinq personnes les plus proches, de son réseau le plus proche, parce qu'on sait que 80% plus ou moins des échanges sur le téléphone mobile sont faits avec les personnes qui font partie du réseau le plus intime des personnes. Donc fondamentalement, il est en train d'appeler sa maman ou sa copine. Donc voilà quelqu'un donc, qui, en plein fonction professionnelle, est en train d'avoir un lien privé, de maintenir un lien privé. Et ce type d'information qui, justement, et c'est bon, le livre que vous avez parlé, L'intimité et le travail, il parle justement de cette tension entre individu et institution autour de cette notion de privé. Et c'est un challenge que on continue à avoir. Donc, j'en discuterai encore un tout petit peu tout à l'heure. Mais donc, il s'est passé ici quelque chose qui, d'une certaine manière, est en train de rompre cette équation, cette idéologie de productivité et isolement. Et ça, on le retrouve bureau, école, même chez les militaires. Donc, ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est deux choses. C'est que ce type d'innovation sociale, cette prise de la possibilité de maintenir ce lien avec ses proches, c'est venu d'une manière totalement spontanée. C'est ce qu'on pourrait appeler un bottom-up innovation. Donc, ça n'a pas du tout été planifié, ça n'a pas été. Et c'est aussi fondamentalement grâce à l'écrit. C'est-à-dire c'est que la majorité de ces échanges privés sont de nature écrite, parce que justement, ils sont sous le radar, et donc on peut s'engager dans des relations. Donc, si vous voyez, toutes ces personnes sont en train de texter, en fait, par exemple. Bon, sauf lui qui est là. Mais, donc, une innovation totalement qui vient du bas. Alors, de l'autre côté, donc je vais passer à discuter un tout petit peu de la maison. Je voudrais essayer de vous parler de l'un et de l'autre. Démarrons par la maison. De l'autre côté, autant on a eu ces transformations le fait d'amener, si vous voulez, à quelque chose qui lie avec le privé, donc dans l'espace professionnel, avec les tensions que cela crée. De l'autre côté, évidemment, il y a eu une importation d'un outil fondamentalement perçu comme un outil de travail dans l'espace privé, avec la création de tous ces espaces de type petit bureau, espace bureau, etc., que malgré les mobiles, malgré les laptops, on continue à avoir. Donc, regardons maintenant qu'est-ce qui se passe dans les maisons. Alors, donc, en tant qu'ethnographe, avec mes collègues, des collègues en Europe, des étudiants aussi, j'ai des étudiants qui font beaucoup d'observations dans beaucoup de pays, parce qu'ils viennent tous de pays différents, on essaie de récupérer de manière assez régulière les cartes, si vous voulez, et l'emplacement de la technologie dans la maison. Chose qui peut sembler ridicule maintenant que tout est mobile, mais qui ne l'est pas. Parce qu'il y a des habitudes, des pratiques, etc., qui font aussi que les objets ont des places privilégiées, etc. Ils ne sont pas là par hasard, de certaine manière. Et ce qu'on a constaté est le suivant. On continue à voir à l'intérieur d'une maison, on continue à voir des espaces qu'on considère publics, donc cette séparation dont je vous parlais, public ou partagé par tous les membres on peut dire foyer, oui, foyer, bon, household, je ne sais pas comment, d'un foyer, et des éléments qui sont par contre personnalisés, qui sont propres à une personne, et donc qui sont spatialisés d'une manière différente. Ce qui est intéressant, c'est que, typiquement, on retrouve dans les espaces partagés la télévision, le vidéo, la Wii, etc. Donc, qui sont justement. Et le fait qu'ils soient dans un espace partagé ne veut pas dire qu'ils soient consommés d'une manière collective. Ça, je tiens beaucoup à souligner. On a toujours cette image un peu d'Épinal où toute la famille assise à regarder le programme ensemble. Ce n'est pas du tout le cas. En fait, c'est souvent simplement c'est des objets qui sont partagés et qui sont utilisés autour de rôles. Je vous montrerai des cartes de temps où on voit très bien qu'en fait, il y a énormément de parallélisme, mais pas de co. C'est rare, en fait, la co-vision, etc. Et puis, toujours dans l'espace public, on a, par exemple, on a encore le téléphone fixe. Téléphone fixe qui, objectivement, malgré sa portabilité, continue à jouer un rôle complètement différent du téléphone mobile, non pas dans la à qui il est adressé. C'est-à-dire que, par exemple, on a trouvé qu'il était systématiquement encore utilisé beaucoup plus, par exemple, par des femmes que des hommes, parce que, par exemple, dans une situation familiale, commencer par des études sociologiques de longue date, c'est plutôt les femmes qui maintiennent les liens sociaux du groupe familial, qui maintiennent les liens qui sont partagés à tous. Donc le téléphone fixe qui est dans un espace public est justement dédié aux liens qui sont les liens non pas individuels mais les liens collectifs. Alors que le téléphone mobile est plutôt utilisé pour les relations qui sont individuelles et propres. Pour ce qui est des PC portables, etc., donc ce qu'on a vu, bon, il y a une histoire très très nette, on sait très bien, le PC est rentré dans la plupart des maisons avec un objectif éducationnel. Il n'y a pas de parent qui ne vous dira pas qu'il a acheté son premier PC pour les devoirs de son enfant. Pas que son enfant n'a jamais fait de devoir dessus, c'est secondaire, mais il y a eu une perception très claire. On achète quelque chose, vous le savez mieux que moi, pour ça. Et typiquement, cela a été placé donc dans un espace identifié comme espace de travail. Et les métaphores qui ont été utilisées jusqu'à récemment sont essentiellement des métaphores de travail. C'est un lieu d'activité concentré, etc. Et même quand il était placé dans des chambres, les chambres d'enfants, etc., il était placé dans un lieu soi-disant de travail, le bureau, etc., de l'enfant, etc. Et cette progressive ludification, si j'ose utiliser ce nom, de le rendre plus ludique du PC, est quelque chose qui lui rencontre aussi des résistances très fortes à l'intérieur de la famille. Nous, ce qu'on a constaté, on n'est pas les seuls, il y a vraiment un signal très clair de l'entrée en adolescence, c'est quand l'enfant porte le PC et sa technologie dans sa chambre, finalement. Et on a vu dans plusieurs, en Europe, aux États-Unis, etc., le phénomène du contrôle des parents sur l'objet, sur Internet, et sur l'accès, etc., par l'emplacement. Donc, aux États-Unis, où ils ont des grandes cuisines, ils le mettent à la cuisine. En Europe, où on a plus de bureaux, plus un salon, il est au salon, justement, et tous les parents disent, je peux mieux contrôler ce qui se passe, etc., ce qui fait, je peux mieux contrôler la durée de son temps, etc. Et typiquement, on voit ce phénomène de je n'ai pas là l'image, on voit un phénomène où, tac, arrivé l'âge fatidique, un peu, tac, tout est amené donc, dans sa chambre où justement il est hors de contrôle. Et c'est là où les anxiétés parentales commencent, etc. Il y a d'autres façons de contrôle qui émergent, beaucoup plus digitales. L'autre type de données qu'on a recueillies systématiquement, ça devient de plus en plus difficile, évidemment, vu le parallélisme des canaux et la multiplicité des canaux, on a toujours demandé de garder des espèces de petits journaux en notant avec quel canal, avec quel contenu, avec quelle personne, etc. Et cela, c'était pour faire des analyses assez... D'une part, c'était pour analyser ça et surtout pour discuter après avec les personnes avec qui on est en train d'observer en fait, les raisons du choix de certains d'un canal plutôt que d'autres. Parce qu'en fait, il y a une spécialisation assez forte, il y a des raisons très fortes pour qu'on choisisse de faire un appel Skype plutôt qu'un fixe, un SMS plutôt qu'un email, etc. Je vais y arriver aussi. Donc, et une des choses qu'on s'est rendu compte, c'est que, en fait, il y a une différenciation très nette dans les temps avec les différents canaux. Donc, et c'est là, pour la première fois, qu'on s'est rendu compte, par exemple, que on avait vraiment des forts pics d'emails personnels au travail, que les SMS étaient beaucoup plus justement beaucoup plus éparpillés que les appels vocaux. On a commencé à se rendre compte que l'écrit, de cette manière, était l'instrument de choix pour des communications privées dans des contextes publics, là, les SMS. Je vais un peu vite, mais mon but, c'est de parler une heure et puis de vous répondre aux questions en une demi-heure. Et puis, interrompez-moi si vraiment je vais trop vite. Là aussi, on sait qu'on a regardé, les différents canaux de communication. On a commencé à voir qu'il y a des emplacements privilégiés pour les divers canaux qui n'ont rien à faire avec l'accessibilité ou le prix. Ils sont toute autre nature. C'est-à-dire, c'est pas l'accessibilité de certains canaux qui les rend plus aptes à être utilisés, mais les contraintes sociales dans lesquelles les personnes sont et ils estiment que les autres sont avec eux. Donc là, ce qu'on constate, qu'à la maison, effectivement, on a la plus grande variété de canaux utilisés, qui vont des SMS et emails, etc. Donc, ce que j'aimerais vous signaler sur ce qui se passe à la maison, c'est fondamentalement, je voudrais que vous partiez avec une idée, c'est le complet parallélisme des activités qui se passent dans un groupe et même, on verra après, chez une personne seule. La maison, il y a une anthropologue qui s'appelle Mary Douglas, parle de la maison, en fait, ce qui rend un foyer. C'est vraiment l'organisation du temps. En fait, c'est un lieu où un groupe organise son temps. Et si on regarde par exemple ce cas-là, c'est un cas en Suisse, c'est pour ça que c'est en allemand. On voit que effectivement, on a un ensemble d'activités en parallèle. C'est juste trois personnes et avec un seul moment commun, c'est la nourriture. Ils mangent ensemble. Si on match ça avec la disponibilité de ressources technologiques à la maison, ce qu'on voit, c'est qu'on a un cadre de vie avec énormément d'activités en parallèle, avec énormément d'instruments différents utilisés en parallèle. Et puis, il y a des choix qui sont probablement de type culturel sur les moments de partage. C'est-à-dire, en Suisse, on avait retrouvé que le moment du dîner était quand même un moment collectif où tout le monde mangeait ensemble. D'autres cultures ont d'autres moments un peu de coordination collective ou de moments collectifs. Mais sinon, une grande variabilité des activités. Et ça, c'est une personne à Paris. Par contre, elle est seule, elle habite seule. Et là aussi, on voit les activités qui se passent à la maison le soir après le travail. De nouveau, une grande variabilité d'instruments, un passage, un parallélisme de canaux de communication et de devices, d'instruments. Donc, l'autre chose, comment est-ce que cela est possible? Comment est-ce qu'on trouve actuellement, on se trouve dans la situation où en même temps on a un parallélisme entre personnes, on a un parallélisme entre instruments. En fait, ce qu'on s'est rendu compte, et c'est extrêmement tangible, c'est que la plupart des activités sont en train de se passer dans le background. C'est-à-dire, le modèle qu'on connaissait de la radio est en train de se généraliser à pratiquement toutes nos beaucoup de nos activités digitales. C'est-à-dire que vous regardez les statistiques actuelles du nombre d'heures, par exemple, passées devant la télévision, quoi qu'on dise, Internet est en train de réduire, ce n'est pas vrai. Année après année, on voit que le nombre d'heures, de minutes, etc., continue à être identique, sinon à se accroître. Et donc, en même temps, on sait que, là, il y a une statistique assez intéressante d'une américaine, ça, c'est des personnes qui ont utilisé, qui regardent la télévision en streaming, donc pas broadcast, je ne sais pas comment le traduire, et ça, c'est le nombre d'heures qui regardent la télévision en broadcast. Et donc, ces personnes-là regardent pratiquement autant que ceux qui ne regardent pas en streaming, en plus que faire du streaming. Donc, ces personnes regardent la télé en broadcast, c'est normal, et en plus, ils font du streaming. Tout s'additionne. Mais comment est cela possible? C'est parce que fondamentalement, quand on regarde ce que les gens font devant la télé, en fait, le span attentionnel est extrêmement limité. C'est-à-dire que ça, c'est certaines des activités qu'on observe les personnes et on discute avec eux. Ils nous disent, bon, voilà, certaines des activités qu'on fait devant la télé, je regarde. En fait, on a des plages de concentration et d'attention qui sont très brèves. Mais ce qui est intéressant, que cette consommation de médias, donc, qui passe toujours de plus en plus en background, est en train aussi de passer sur certains des canaux de communication. Je ne sais pas dans vos observations, mais nous, on constate un usage de plus en plus systématique de Skype comme non pour des conversations focalisées, mais pour passer du temps ensemble. Ce qu'on constate, on a fait pas mal d'études, on fait beaucoup d'études avec des familles de migrants, des familles qui laissent des enfants ailleurs ou qui se déplacent complètement, etc., avec la famille. Et ce qu'on constate, c'est de plus en plus de situations dans lesquelles on ouvre Skype, on le met sur la table et puis on fait ses activités. On cuisine, on dîne, on joue, on dessine comme ses enfants. Et cette conversation-là, elle devient une conversation de background. Et donc, on voit ce phénomène de, je ne sais pas comment dire, d'arrière-planisation du digital qui commence à être partout, qui est la seule façon d'expliquer la continuelle addition de nouveaux instruments, de nouveaux canaux. Il y a cette étude absolument effarante aux États-Unis, the Kaiser Foundation. C'est un institut médical, je pense. Tous les deux ans, ils font, parmi d'autres choses, ils analysent les usages digitaux entre 8 et 18 ans. Oui, peut-être vous connaissez. Et il y a deux ans, ils avaient dit, on a atteint ce qu'on pense être l'absolue limite de ce qu'un enfant peut gober comme média, peut consommer. Deux ans après, ils disent, on s'est trompé, on a 50 minutes de plus, etc. Donc, on a 8 heures de consommation de médias, etc. Mais, justement, et eux-mêmes, ils disent, cela n'est possible parce qu'il y a une paralysation. Pendant qu'ils regardent la télé, ils écoutent la radio, ils regardent Internet, ils font Facebook, etc., etc. Mais le phénomène, ce qui est clair, c'est que si on pense à l'espace maison, ce qu'on constate, c'est la progressive, comme je dis, arrière-planisation de tout ce qui est digital. On n'est pas du tout dans un... ce qui est particulièrement étonnant, quand moi, je travaillais beaucoup avec des ingénieurs, alors que tout le développement porte sur l'idée de aider au choix, soutenir le choix, je te donne le choix, j'augmente le choix, tu peux choisir ça, tu peux choisir cela, je veux dire, l'esprit ingénieur, de certaine manière, essayer de donner de plus en plus de choix, alors que nous, ce qu'on constate dans les usages, c'est justement la routinisation maximale. Chaque fois qu'il faut choisir, pourquoi quand les gens ont un iPod, ils mettent le shuffle, ils ne vont pas choisir chaque chanson, ça veut dire que toutes les 4 minutes, vous devez dire, bon, qu'est-ce que je vais écouter maintenant ? Et puis je vais choisir quelque chose. Non, les gens aiment, ils mettent ça et ça part. Et c'est justement, c'est un paradoxe total entre le développement et les usages. Et c'est justement parce qu'il y a cette constante addition de nouveaux outils, de nouveaux canaux, etc., que ce phénomène ne peut que s'extrémiser. C'est-à-dire le fait de mettre tout en arrière-plan, de tout avoir en parallèle, etc., qui va vraiment à l'encontre de ce que beaucoup de services essaient de développer. Et donc, si je reviens sur la question de l'attention et de la maison, la maison qui était devenue un espace justement de éloignement du travail, éloignement des activités de production, etc. Donc, on a l'introduction par le biais de l'ordinateur avec toutes ces métaphores de travail, mais objectivement, le modèle, si vous voulez, persiste, parce que tout ce qu'on est en train de voir là, tout cet éloignement, etc., est un modèle qui maintient quand même la possibilité de relation. J'ai passé beaucoup de temps à regarder les timelines des personnes et à être très préoccupée, très triste. Je regardais ça, je me disais, mais bon, comment c'est possible s'ils sont tous en train de faire toutes ces choses, est-ce qu'ils ne se parlent jamais d'une certaine manière? Et puis, ce n'est pas vrai, parce que tout est papier, comment est-ce qu'on dit, le wallpaper. Tout est wallpaper d'une certaine manière. Donc, en fait, il n'y a pas une absence. Et au contraire, ce qu'on constate, c'est... dans ce type de situation, c'est une ouverture d'une espèce d'un autre espace, d'un autre lieu de communication et une perméabilité à l'intérieur de la maison de liens qui étaient, vu les petites maisons que je vous ai montrées tout à l'heure, étaient devenues de plus en plus difficiles. Donc, j'y vais. Je passe de nouveau vite sur le travail, et puis on va revenir sur la communication. Alors, si je dois penser à ce qui est en train de se passer sur les lieux de travail, excusez-moi pour les slides en anglais, mais je pensais de toute manière, vous avez 45 nationalités, si j'ai bien compris. Et donc, voilà. S'il y a quelque chose qui caractérise, si on peut caractériser d'une certaine manière ce qui s'est passé dans ces dernières années avec les canaux de communication, probablement le phénomène le plus frappant, c'est justement cette extension des interactions personnelles dans les lieux, c'est ce que je vous disais auparavant. Mais cela s'accompagne d'un autre phénomène, parce que tout le monde se focalise sur ça. Tout le monde dit, oui, maintenant je fais Facebook partout, etc. Donc tout le monde se focalise sur cet aspect d'extension, mais très peu se focalise sur le phénomène de concentration. Alors, on est tous, je viens d'écrire un chapitre, j'ai dû faire une revue de toute la littérature sur la communication personnelle digitale. Je crois qu'il n'y a pas un seul chercheur qui s'occupe de communication qui n'est pas d'accord qu'en fait, malgré Facebook, malgré les réseaux sociaux, etc., ce qui s'est passé dans ces dernières 15 ans, c'était une concentration de la communication sur le noyau dur, si vous voulez, des relations sociales. Si on caractérise d'une manière vraiment brutale les réseaux d'une personne, si je me mets là au milieu, et ça c'est, disons, le cercle intime, plus ou moins 5 personnes, à travers les cultures, regardez Wellman, regardez, etc. On sait, je veux dire, même à travers, on sait que la sphère vraiment proche, intime, est vraiment assez minuscule. Le réseau proche, les amis, les cousins, les proches, etc. Une autre quinzaine de personnes, de nouveau, on a des données à travers des cultures aussi sur ça. La composition change de culture à culture, mais quand même il y a une résistance. Au-delà de là, les liens faibles, une grosse variabilité individuelle. Il y en a qui ont 400 contacts, il y a d'autres qui en ont très peu. Mais on a quand même, si vraiment d'une manière très banale, on veut caractériser un peu les réseaux sociaux individuels, on peut le caractériser avec ces couches. Et qu'est-ce qu'on voit quand on regarde tous les canaux de communication, tous, ça c'est ce qu'on utilise tous d'une manière quotidienne, qu'est-ce qu'on voit ? La majorité de nos canaux sont en fait concentrés sur des nombres très petits, et assez proche. Mobile, pas plus que 4, pas plus que 5 personnes pour appel vocal. Skype, donc j'ai travaillé avec Skype, 2 personnes, 2. Le nombre, ils savent que le buddy list moyen de leurs 500 millions d'utilisateurs sont 2, dont la maman, d'habitude. Le fixe, bon, il est mourant, mais encore au-dessus de 5. SMS, on monte un tout petit peu, on arrive à 10, mais en tout cas c'est... instant messaging, là on a plein de données. Il y avait un moment où tous les gosses étaient sur MSN, etc., etc. 150, 200, 400 buddies, dans etc. Et échange régulier, moins de 10. Email, personnel, là aussi ça descend, c'est presque, etc. De nouveau, pour ce qui est de personnel, etc. Ce qui change, c'est le social networking. Mais si vous avez vu ces données de Facebook eux-mêmes, quand ils ont analysé où il y a le nombre d'échanges réciproques que les personnes ont entre eux. Donc, une personne moyenne a 150-200 contacts, mais a des échanges réguliers, réciproques, donc ce qui veut dire qu'il commente sur la photo, il envoie un petit message, etc. 4 pour un homme, 6 pour une femme. Donc, ils ont analysé toute leur base de données. Donc, là aussi, ce qui est intense et réciproque, relativement réduit. Donc, pour revenir à mon schéma idiotique ici, on voit vraiment une forte, forte concentration de tous ces canaux dans cette sphère-là et cette sphère-là, quoi qu'on en dise sur Facebook. Et ce qui est vraiment très, très important quand nous analysons ce qui est en train de se passer au travail. Parce que toutes les craintes que les employeurs expriment constamment, etc., portent sur le fait qu'il y a une expansion énorme, une perte de temps énorme, parce que les gens passent leur temps sur Facebook, ils sont en train de communiquer avec Dieu sait combien. Alors que nous savons que la majorité des échanges se passent avec ça, et qu'en plus ils ont une durée réduite. Attendez. J'ai l'impression d'aller un peu vite là. Oui. Dites-moi, ça va? Donc, pourquoi c'est tellement réduit? Alors, pourquoi est-ce qu'on a une concentration aussi forte avec peu de personnes? Il y a, bon, on pourrait se dire qu'il y a des limites sociales de type avec qui est-ce que j'ai envie d'être en relation, etc. Et il y a aussi ce qui nous paraissent être aussi des contraintes qui sont propres aux différents types de canaux. Une chose dont on s'est rendu compte, c'était que tout ce qui est voix est fondamentalement dédié au groupe le vraiment le plus intime, c'est-à-dire vraiment si... on est en train de parler des quatre personnes qui vous sont plus proches. Et je parie, si je vous demande de prendre votre téléphone, de regarder le historique des derniers 20 appels, hors les 20% d'appels, etc., la majorité vont être dédiés à quatre. C'est toujours les mêmes noms qui reviennent. Et typiquement, ils sont les plus proches. Le texte, on se rend compte, il est là aussi, mais il commence aussi à être dédié aux deuxième couches, si vous voulez, les amis un peu plus éloignés, etc. Et le broadcast, par broadcast, je veux dire Facebook, en tout cas, c'est là où on est dans la sphère la plus éloignée. Ce qui est intéressant, c'est que plus on est dans le centre, plus on est ici, plus il y a de redondance. Nous savons qu'on utilise plus de canaux avec des personnes auxquelles on est proche qu'avec des personnes qu'on est éloignées. Typiquement, c'est exactement le cas pour lequel Facebook nous tient comme ça. C'est parce qu'on sait très bien que si on arrête Facebook, il y a plein de gens dont on a contact seulement par ce biais-là, on n'a pas d'autres. Et donc, en perdant ce canal-là, on risque de perdre tout canal, ou c'est les personnes avec qui on gardait contact juste avec une carte de Noël, etc. Alors que là, il y a beaucoup plus de redondance. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire, mais pourquoi il y a cette espèce de distinction entre canaux? Et là, on revient à cette histoire d'attention. Bon, évidemment, les canaux vocaux sont des canaux synchrones. Mais qu'est-ce que ça veut dire synchrone? Synchrone, ça veut dire que quand je vous appelle, en fait, je vous interromps. Je vous appelle vocalement, fondamentalement, vous arrêtez ce que vous êtes en train de faire et vous dédiez l'attention à moi, de certaine manière. Donc, ce que je vous demande avec un appel asynchrone, c'est de me donner une attention immédiate. Évidemment, avec l'asynchrone, je demande quand même une attention, mais elle est différée ou elle est au choix. Et là, paradoxalement, je demande pas d'attention du tout. Du moment que je poste, voir, pas voir, etc. Donc là, de cette manière, j'ai aucune demande d'attention. Et ce que nous savons sur les mécanismes d'attention, donc ici c'est immédiate, déféré et peu d'attention, ce que nous savons, c'est que l'attention, en fait, demander l'attention de quelqu'un, de point de vue social, est un énorme, est une demande de requiert de jongler le statut réciproque, de certaine manière. Ce sociologue américain Charles Durber, qui a écrit ce livre sur l'attention, dit que donner l'attention à quelqu'un, c'est un des signes de définition de statut maximal. C'est-à-dire une personne avec un grand statut, c'est un statut élevé, va recevoir beaucoup d'attention, va s'attendre de l'attention. Quelqu'un avec un statut inférieur ne reçoit pas d'attention et s'attend peu d'attention. Et on a énormément de distinctions autour de ça. Par exemple, d'autres chercheurs parlent d'une distinction de genre. Donc, les femmes ont l'habitude de donner, dans beaucoup de cultures, ont l'habitude de donner de l'attention et d'en demander peu, et contrairement, les hommes plus. Donc, la différence de genre et aussi de hiérarchie à l'intérieur de groupes sociaux, etc. Ce qui est intéressant, autour de ce thème, je peux vous donner un exemple. On a fait une série d'observations avec des jeunes étudiantes à Paris, algériennes, qui nous disaient avoir des frères proches, etc., et disaient de le contacter systématiquement que par SMS. Et l'ethnologue disait, mais tu les appelles jamais? Il dit, non, j'attends toujours que mon frère m'appelle. Donc je ne peux que signaler ma présence, mais je ne peux pas interrompre. Et je ne peux pas être. Et dans beaucoup de cas, dans d'autres études aussi en Suisse, en Angleterre, on a entendu le même approche. Je préfère un canal asynchrone à chaque occasion où finalement je ne suis pas claire, je n'ai pas bien négocié la relation de statut immédiat. Ce qui nous explique d'une certaine manière, mais avec qui finalement on a résolu les problèmes? Qu'est-ce qui est prêt toujours à prendre nos appels d'une certaine manière? Avec qui on a, je sais pas, avec finalement le cercle le plus intime, avec un partenaire, avec des enfants, etc., etc. Ce qui explique cette focalisation. Et chose qui est encore plus saillante avec Skype, visuel, où là l'attention doit être vraiment complète, disons. Ou en tout cas, il doit y avoir une confiance. Et qui explique aussi le fait que toutes ces techniques qui sont apparues de j'envoie un texte pour te dire est-ce que je peux t'appeler, ou je t'envoie un email pour dire est-ce qu'on se met d'accord sur une heure pour se discuter. Donc ce qu'on voit, c'est vraiment une relation inverse entre le nombre de contacts et l'attention. Plus un canal, d'une certaine manière, demande de l'autre de l'attention, moins de contacts réguliers il a, de contacts. Donc, le social networking, où finalement, on a aucune demande d'attention. Je peux poster, puis personne ne le voit. Ce jour-là, il n'a pas ouvert, etc. C'est vraiment je jette une pierre dans l'eau. Et il y a aucune obligation, c'est justement le canal qui a plus de partenaires. Et c'est exactement pour ça aussi que quand vous discutez avec des personnes, vous dites finalement Facebook est tellement ludique parce qu'il n'y a pas d'obligation dans Facebook. Finalement, j'ouvre, je peux ne pas, de toute manière, c'est pas vraiment adressé. Alors que quand on ouvre son inbox, on a tous les palpitations parce qu'on sait que ça va avoir la liste de choses à répondre, à faire, etc. Et c'est pour ça que email, quand les gens vous disent email, c'est le travail, Facebook, c'est ludique, c'est vraiment autour du sens d'obligation que chacun de crée. Parce que quand même, dans les canaux asynchrones, il y a quand même l'individualisation de l'échange, donc quand même une demande de réponse individuelle, alors que le social networking, dans certains de ces aspects, il est beaucoup moins présent. Alors, tout ce détour pour vous dire que quand on voit, quand on voit ce type de comportement, quand on voit ça, qu'est-ce qu'on sait? On sait un nombre de choses. On sait que fondamentalement, les contacts qui seront faits avec ce type d'instrument vont être très dédiés à un groupe extrêmement limité de personnes. On sait, il y a toutes les données que depuis des années recueillies par les télécoms, etc., qui disent l'appel vocal moyenne sur un téléphone mobile est de 2 minutes. 2 minutes. Il est même en train de descendre malgré les offres, etc. Donc on sait que les appels sont brefs. On sait que, étant donné qu'on est en train de texter, donc c'est un canal de communication extrêmement pauvre qui requiert une connaissance mutuelle très importante. Si moi je sors d'ici et je texte à mon mari, c'était pas mal. Parfait, il me comprend, il sait que je suis là, etc. La discussion est bien passée. Si je texte à quelqu'un que je connais moins, c'était pas mal, il peut penser plein de choses. Donc, tout ce que nous savons sur l'usage des canaux de communication digitaux nous indique que les échanges qui sont en train de se passer là sont des échanges avec un groupe limité et sont courts, etc., etc. Mais quand même, ça soulève toute une série d'inquiétudes qui n'ont rien à faire, en fait, avec la réelle perte de temps que ces personnes sont en train d'engendrer à leur entreprise, etc., mais parce que c'est en train de faire un réel challenge sur l'idée qu'il faut que les deux environnements soient complètement étanches et qu'il n'y ait pas de contact entre eux. Donc, ce qui est intéressant... Pas plus qu'il y a une semaine, j'étais invitée par une organisation de recherche qui avait fait un sondage. Le service IT avait regardé les sites utilisés et qu'est-ce qu'ils avaient trouvé? Que le site numéro 3 dans cette organisation était Facebook. Alors les dirigeants se demandaient s'ils devaient interdire Facebook ou pas et tous les sites, etc. Et le directeur des ressources humaines m'a dit viens donner une conférence. Et donc c'est pas plus loin qu'il y a une semaine. Je veux dire, c'est pas quelque chose. Ce type de thématique, est-ce que faut-il interdire? Faut-il interdire à l'école? Faut-il interdire, etc. Revient. Mais elle revient souvent non pas sur des bases objectives. Et la première question que je leur ai posée, je dis mais est-ce que vous savez si donc voilà c'est le site numéro 3 utilisé, etc. Mais pour quelle plage de temps? Ah ben on n'a pas mesuré. Donc ils savaient pas si en fait il y avait des personnes qui passaient 4 heures dessus ou si toutes les demi-heures quelqu'un y passait 2 minutes dessus, qui est radicalement différent du point de vue cognitif, de l'attention, etc. Ce qui était clair, c'était il y avait l'équation de j'ai un contact, j'ai quelque chose qui perd de temps, etc. Donc faut-il l'interdire ou pas? Donc ce thème revient. Et je pense que si on regarde tout ce qu'on sait sur les stratégies de communication, on devrait se poser la question d'une manière différente. Et je pense que cela, ça vaut pour les écoles aussi, par ailleurs. Alors, dans ma cavalcade sauvage, je passe encore à un dernier thème, et puis j'espère de discuter avec vous plus en détail, qui est le thème, ce mythe-là. Ce mythe, cet homme mythique qui travaille dans le train, bon, je l'ai fait ce matin, et en téléphonant comme ça, l'ubiquité absolue de toutes nos capacités, je veux dire, est-ce que c'est réaliste ou pas? Et on a fait des études sur des personnes très mobiles, donc des personnes qui, pour le travail, soient des, comment est-ce qu'on appelle ça, des personnes qui vendent, des commerciaux, des pilotes d'avion, des consultants, des personnes qui font des réparations, etc. Donc on a étudié effectivement leurs pratiques en mobilité, disons, sachant qu'ils ont tout à leur disposition, est-ce qu'ils utilisent tout, partout, etc. Et ce qu'on a constaté, c'est quelque chose de très simple, c'est qu'en fait, tous, d'une manière après différente, en fait, ils avaient trois phases. Ils ont trois phases. Il y a la préparation, c'est le avant de partir chez le client, en mission, réparer, etc. Il y a avant, il y a le pendant et il y a l'après. Et ces trois moments continuent à persister. Et on s'est rendu compte que relativement au contenu digital qui était manipulé, en fait, il y avait des grosses distinctions. C'est-à-dire qu'avant, on prépare en lieu calme, tranquille, etc. On prépare le matériel. Donc, si je prends un commercial, il va préparer ses dossiers pour montrer toute l'information sur les clients, la fiche, etc. Il va préparer ça. Quand il est sur site ou il est en mobilité, il va recueillir les informations. Donc, il va avoir un échange, il va recueillir les informations. Il va éventuellement communiquer avec d'autres, etc. Communiquer. Mais le travail d'édition, travail dessus, organisation, partage, se passe après. Se passe de nouveau en lieu fixe. Et ce qui est intéressant, j'ai un étudiant qui est en train de faire quelque chose de complètement différent. Il étudie, il va dans les festivals de musique indie, rave, etc. Là où on reste 3-4 jours dans le camping et puis il y a la musique, des festivals de musique. Et lui, il voulait regarder comment les gens, évidemment, il y a des Wi-Fi là-bas qui marchent, etc. Et tout le monde a des téléphones, ils prennent des photos, etc. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout est partagé? Et même là, même avec une génération, et en moyenne, ils ont 18 ans, même là, on a vu la même chose. Préparation, donc ils se préparent, regardent, etc. Ils prennent plein de photos. Et quand ils sont là, ils communiquent essentiellement avec des autres copains qui sont là ou des gens qu'ils ont connus là parce qu'ils se perdent tout le temps. Et ce n'est que quand ils retournent à la maison qu'ils regardent les photos, qu'ils les organisent et qu'ils les partagent. Donc, alors que nous, on s'attendait qu'il y ait un partage immédiat, que justement, l'idée, c'était « je suis là, je te dis tout de suite que j'ai vu ce chanteur-là, etc. » Pas du tout. En fait, l'activité sur site est trop intense et il y a quand même, il faut être ailleurs de cette manière pour organiser et faire. Et ça, cette étude m'a vraiment frappée parce que je me disais, oui non, mais ça c'est des vieux ploucs, hein, je veux dire, c'est comme moi, bon oui, on n'arrive pas à tout faire, hein, je veux dire, on fait, etc. Non, mais même dans quelque chose d'aussi ludique qu'un festival de musique où on est, je veux dire, il n'y a rien en jeu. Je veux dire, en jeu, c'est une photo, une autre photo, ou des choses comme ça. Même là, on voit cette séparation d'activité qui correspond à ces, donc à nouveau, si je pense à ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il est vraiment en train de faire? Je veux dire, quand il est dans cette situation-là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Est-ce qu'il est en train de préparer? Est-ce qu'il est en train d'éditer? Est-ce qu'il est en train... Et on a eu des cas dans cette étude, par exemple, de journalistes et des personnes qui, justement, font des reportages. Là aussi, on se dit, avec les moyens qu'il y a, une possibilité de partage, etc. Non, stockage, très important, et... travaille dessus à posteriori. Donc, je serais très intéressée par l'expérience avec vos étudiants ou les étudiants en mobilité, etc., pour savoir justement comment le temps est employé dans cette heure de trajet, dont je ne sais pas s'ils sont encore là, qu'ils décrivaient. Laquelle de ces activités est faite, etc. Donc, 5 minutes. Alors, revenons à ma question de l'attention en tant que ressource limitée. C'était un peu au fond, un fil de fond dans ce que j'ai essayé de raconter. Mais pour moi, elle trace un peu, au moins pour moi, elle m'aide à tracer, si vous voulez, les spécificités de chaque canal et de chaque lieu. La première chose que je voulais signaler, c'est justement qu'on constate qu'il y a quand même une spécialisation des canaux, des instruments, des lieux, etc. Malgré, si vous voulez, un discours industriel très fort de totale ubiquité, de totale indifférenciation, on peut tout faire à tout moment, etc., si on regarde les pratiques et les usages, en fait, on constate une différenciation assez forte. Et différenciation qui est due, de mon point de vue, du fait que chaque lieu, chaque situation a une histoire sociale qui est très forte, qui est beaucoup plus forte que toute autre chose, d'une certaine manière. Que quand on introduit des instruments comme le téléphone mobile ou Facebook, etc., au travail, ce n'est pas une question d'attention individuelle. Là, c'est un conflit entre institutionnels, si vous voulez. On est en train de challenger, en fait, des normes sociales qui sont là depuis une longue période, etc. Et c'est plus un effort individuel, c'est vraiment relationnel avec cette institution. Quand on regarde à la maison, on a quand même construit des maisons avec des caractéristiques très spécifiques sur ce qui est, quels sont les espaces publics à l'intérieur de la maison, quels sont les espaces partagés, quels sont le privé, quel est le rôle de la maison, quel est le rôle de différents partenaires dans ça en tant qu'éducateur, en tant qu'enfant, et le maintien des relations. Donc là aussi, quand on introduit quelque chose comme un système, comme quelque chose comme ça qui ouvre une communication avec beaucoup de canaux externes, ce n'est pas parce qu'il y a une possibilité de le voir que cela va se passer. Donc, avec qui on maintient des liens, avec quel instrument, va aussi être déterminé par plein de contraintes de type social. Et finalement, aussi en mobilité, là je dirais que je parlerai plus presque de... Là, c'est mon aspect cognitif qui sort. J'ai l'impression que ce qui se passe en mobilité, ce que je viens de décrire là avec le avant, après, etc., a beaucoup plus à trait à l'organisation, plus à des caractéristiques cognitives. Qu'est-ce qu'on peut faire en situation d'interaction? Est-ce qu'on peut gérer et travailler sur des contenus? Ou est-ce qu'on est plus dans une situation d'interaction, on est en train de recueillir des contenus? Est-ce qu'on se coordonne ou est-ce qu'on se focalise, etc.? Mais derrière tout ça, il me semble qu'il y a en tout cas une mise en question, et c'est là où j'ai l'impression que la vraie problématique est, c'est autour de notre changement de nos capacités attentionnelles. C'est-à-dire qu'il y a énormément de débats et finalement beaucoup des choses, beaucoup des préoccupations des parents, beaucoup des préoccupations d'employeurs, beaucoup des préoccupations individuelles sont autour de comment est-ce qu'on gère notre attention, comment est-ce que les autres gèrent l'attention. Il me semble que si on continue à travailler avec ce type de modèle aussi simpliste, on ne va pas aller très loin. Parce que finalement, la seule chose qu'on pourra, à laquelle on pourra arriver, c'est des formes de limitation ou de restriction, etc. Ce qui, est, ce qui se passe dans les écoles, ce qui se passe dans, dans les bureaux. Parce que fondamentalement, on part de, d'un modèle où si on a ce goulot d'entreglement, on, il y a trop de choses là qui sont en train de faire compétition. Donc il faudra que donc, les parents à la maison vont bloquer, vont contrôler, on va mettre des filtres, etc. etc. Alors, pour terminer, j'aimerais montrer quelque chose, de discuter quelque chose de différent, qui est un modèle qui me semble plus moderne et qui est un modèle de l'attention qui est en train de se développer depuis, depuis plusieurs années, qui est l'idée que l'attention est fondamentalement un processus social. Ce n'est pas un processus cognitif individuel, mais c'est en fait un processus social. Alors, depuis au moins 20 ans, nous savons, ceux qui étudient le développement du langage chez les nourrissons, vous disent qu'il y a un moment clé dans le développement, je veux dire, tous les bébés passent par là, en fait, qui est le pointage, le pointing. C'est-à-dire que là, si vous voyez ce bébé qui, je pense, a 9, 10 mois, et sa maman, en fait, ce qu'il est en train de faire, il est en train de pointer à quelque chose. Ce qu'il est en train de faire, c'est de lui indiquer où porter son attention. En fait, il est en train de dire, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un éthologue, psychologue qui s'appelle Michael Tomasello, qui est quelqu'un de très intéressant, qui étudiait aussi bien les bébés que les chimpanzés et les primates. Et lui, il dit, les primates, ils pointent aussi. Mais un primate, il pointe toujours s'il veut quelque chose. C'est-à-dire, il dit, je veux de l'eau, quoi. Alors que ce qui est en train de se passer là d'intéressant, c'est que c'est un pointage de partage d'un point d'intérêt. Je crois que ce que le bébé voit là, c'est un clown, un clown ou quelque chose comme ça. Donc ce qu'il est en train de dire à sa maman avec le doigt, c'est de dire, regarde, il y a quelque chose de rigolo, regarde là. Alors derrière ce geste-là, qui après, donc Tomasello indique ça vraiment comme, et les psychologues du développement indiquent ça comme vraiment quelque chose de fondamental, c'est parce que dans l'élaboration de la compréhension de l'attention réciproque, il y a quelque chose de très complexe qui part. Donc non seulement je lui indique quelque chose d'intérêt, je m'assure qu'elle regarde du bon côté, je dois faire l'hypothèse que ce que je regarde va aussi l'intéresser, et on commence un système récursif, si vous voulez, de compréhension des états mentaux d'autrui. Donc, ce qui est intéressant, c'est que si on commence à regarder, je m'excuse de faire du psychologie du développement en 2 minutes 50 ans, mais si on commence à regarder, à prendre ce point de vue, on se rend compte que une des bases fondamentales, et Tomasello l'indique très bien, une des bases fondamentales du langage et de la cognition avancée, c'est vraiment le fait de pouvoir partager l'attention de l'autre, de rentrer, lui il parle de joining into attention, donc pas joint attention, mais joining into attention, et rentrer, comment est-ce qu'on pourrait traduire ça, se joindre à l'attention d'autrui. Et je pense que toutes les dernières études sur l'attention nous indiquent du fait que nous sommes fortement codés pour avoir cette capacité de se joindre dans l'attention d'autrui. Ce qui est d'une part quelque chose de fantastique, c'est exactement ce qui fait ici que si je reçois un texte de 3 mots de quelqu'un, ça peut me rendre hystérique d'énervement, juste 3 mots, j'ai une telle capacité de compréhension, de me joindre dans l'attention de cette personne que ça suffit qu'ils me disent je ne serai pas là, et ça peut m'agacer énormément. C'est la même chose pour Facebook, je peux voir un petit mot de quelqu'un, celui-là, fini, je ne sortirai jamais avec, hein, comme disent les ados, etc. On a une capacité de lecture de l'attention, de rentrer dans l'attention d'autrui qui est absolument phénoménale, qui est exactement en même temps ce qui nous préoccupe. C'est-à-dire que cette capacité-là fait si effectivement qu'on peut jongler, comme on fait tous maintenant, avec nos différents canaux de communication, etc. Mais ma note optimiste à moi, autour de cette notion d'attention, c'est que si on est tellement capable, ce qu'on est en train de vivre là, avec notre monde digital, avec tous ces canaux, etc., c'est aussi une phase d'apprentissage. C'est-à-dire qu'on a cette capacité de se joindre et de comprendre, de rentrer dans l'attention d'autrui. Et donc, cette capacité, elle est là. Donc, le problème pour moi, il se déplace du goulot d'étranglement au fait de dire mais à qui je donne attention, à quoi je donne attention. Et tout d'un coup, on se déplace et dit non, c'est pas le problème de j'ai pas assez de attention span, mais c'est-à-dire quels sont les éléments fondamentaux, quels sont à quoi faut-il que je donne l'attention. Et donc et le challenge, il me semble qu'aussi pour des questions d'éducation sont fondamentalement là. C'est pas tellement le discours je bloque l'attention, j'ai un problème, c'est un challenge d'être face à ça, mais comment est-ce que je hiérarchise d'une certaine manière mes attentions. Et je veux finir sur quelque chose dont je parle dans le livre. J'ai parlé avec un prof, quelqu'un qui s'occupe de tout ce qui est l'informatique dans une école et, en Angleterre. Et lui a décidé de laisser tout libre. C'est-à-dire les gosses, ils peuvent tout faire, ils peuvent tout amener, etc. Par contre, il prend toute occasion d'abus, d'un problème, etc., pour faire une assemblée, faire une réunion, faire quelque chose. Et lui, son approche, il est simple. Il dit, on ne peut pas, de certaine manière, laisser les enfants seuls devant tout ça. Il faut qu'on élabore d'une manière sociale, d'une certaine manière, quels sont les comportements appropriés. Et lui, il dit, bon, là, c'est... Il joue un peu avec le feu, mais il dit, finalement, si un enfant est plus intéressé par son Facebook que par mon cours, au cours, j'ai un problème avec le cours. Et bon, toute personne qui a enseigné sait que c'est une lutte difficile. Mais quand même, ce que je trouve intéressant, c'est justement le fait de se positionner de cette manière-là autour de l'attention, dire, bon, voilà, tout le monde a cette capacité, on va l'appliquer, etc. Déplaçons d'une certaine manière le focus sur la question. Ce n'est pas de dire j'ai que ça et je dois l'occuper d'une certaine manière, mais comment est-ce que je fais jongler d'une manière efficace entre ces divers espaces. Je vais m'arrêter là parce que j'ai l'impression que je vous ai noyé de thématiques, mais chacune d'elles, je suis prête d'approfondir et je peux parler des heures, comme vous avez vu. Bon.
Merci Stéphania, je pense que vous avez eu toute notre attention et pourtant nous sommes plus de 5 dans la salle. Alors, le micro que je vais faire passer, évidemment c'est tout au fond. Bon.
Oui, bonjour. Donc, j'étais tout à fait passionnée par votre intervention. Alors, je voulais essayer, donc j'essaie de remettre les choses dans l'ordre dans ma tête, là, parce que c'est vrai qu'on a eu plein d'informations. Donc, j'ai retenu deux choses. Donc, à la fois, au tout début de votre intervention, vous parliez de l'espace physique. En fait, il y a eu un isolement dans les espaces de travail, en fait, de la population. Et donc, après, on est passé peut-être avec l'arrivée d'ordinateurs et d'Internet à un isolement dans les foyers. Enfin, j'imagine, après vous saurez mieux dire que moi, mais il y a certainement eu des études de fait entre l'arrivée de l'ordinateur dans les foyers et d'Internet surtout, et l'isolement qui a dû se faire instantanément plus dans les foyers plutôt que des sorties vers l'extérieur pour avoir des réseaux, des relations sociales avec les gens.
Non, en fait, non, je voulais pas dire ça, excusez-moi. En fait, l'isolement, il est venu au contraire. C'est-à-dire qu'il y a, au même moment, bien avant l'arrivée d'Internet, qu'au contraire, je pense, joue un autre rôle, il y a eu cette séparation entre les espaces. L'isolement, il est né d'une image d'une maison cocoon, protégée, etc., etc., où on voit effectivement vraiment physiquement la construction de barrières presque à l'entrée, etc. Et donc bien cela est bien avant. Il y a des études intéressantes. Il y a toujours cette mythologie, par exemple en Angleterre, que dans les villes ouvrières au début de 1950, etc. En fait, les gens passaient le temps à passer d'une maison à l'autre. Pas du tout. Ils allaient jamais chez les autres. Justement, il y avait les pubs comme lieu public, donc lieu public où on s'allait. Et nous, dans nos études, on a vu très peu de présence physique d'autrui dans la maison, mais indépendamment de l'arrivée d'Internet ou pas. Au contraire, je pense que bon, il y a des études il y a une étude longitudinale qui a été faite au Canada par Wellman et d'autres études tendent à montrer que l'usage d'Internet, au contraire, corrèle plutôt fortement avec un engagement local, dans des activités locales, de voisinage, etc. Et nous aussi, on a constaté qu'en fait, il y a comme un effet de boule de neige. Si plus vous téléphonez, plus c'est probable que vous allez voir cette personne-là d'une certaine manière. Les personnes avec qui on garde le plus de contacts, c'est les personnes avec lesquelles on va plus probablement se voir face à face. Donc l'usage, au contraire. Et donc l'image là des enfants, j'en ai plein d'autres de personnes qui Skype. C'est au contraire. Moi, je trouvais un peu déprimant le fait que ces maisons étaient aussi fermées. Et puis, tout d'un coup, je me suis rendu compte qu'il y avait une espèce de perméabilité, justement, digitale qui était très forte. Donc, en fait, il y a énormément de communication qui se passe. Dans ces 8 heures de media consumption, en fait, il y a aussi beaucoup de communication qui se passe et de contacts qui se passent. Donc, j'ai pas du tout voulu parler de Facebook. J'ai un peu sous-joué l'aspect social media. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de contacts qui sont faits de la maison, indépendamment de l'espace physique, si vous voulez. Donc moi, je le vois plutôt comme une progression positive, si vous voulez, vers la socialité, plutôt qu'inverse.
D'accord. J'ai une deuxième question. Oui. Donc vous avez parlé de l'attention... aussi, donc ces deux espaces de travail et privé où finalement ce sont deux espaces comme vous dites culturellement avec le poids culturel les gens en plus se sentent plus à l'aise pour travailler donc soit au travail soit chez eux et finalement entre ces deux espaces géographiques il y a une difficulté peut-être à travailler réellement, c'est-à-dire on stocke de l'information, on prend des photos, on recueille des données, des choses comme ça. Est-ce que justement avec l'arrivée des nouveaux outils nomades comme l'iPhone, l'iPad, etc., qui permettraient peut-être justement un apprentissage différent, mobile, est-ce que hors ces deux espaces géographiques, il est possible, selon vous, de créer des apprentissages qui soient qui permettent à des étudiants, à des apprenants, d'apprendre en dehors de ces deux lieux-là.
Donc, moi, je ne veux pas nécessairement caractériser les lieux comme étant maison, bureau, comme étant les seuls lieux de travail. Ce qui est clair, c'est qu'on constate que les personnes tendent à avoir des routines très fortes. Je n'en ai pas beaucoup parlé, que ce soit des routines de consommation média, etc. Même avec tout ça, on sait que, avec tous les moyens, on sait que les gens ont des routines. D'abord, ils regardent le site du Monde, puis ils vont regarder sur quelque chose d'autre. Il y a des espèces de routines, d'accord de, et puis je fais un peu de Facebook. Et je pense que donc avec les outils nomades, je ne veux pas dire que ça focalisé dans deux lieux, mais c'est probablement focalisé dans des lieux routinières ou des personnes. Si quelqu'un travaille très bien dans le train, par exemple, il y a des gens qui disent c'est le lieu où je travaille mieux au monde. Etc. Il a cette routine, cette capacité d'isolement, etc. C'est ça. Donc ça peut être la bibliothèque, ça peut être n'importe où, mais Starbucks, tu vois. Mais ce qui est important, c'est que ça fasse partie d'une routine où il dit bon là c'est mon activité de traitement si vous voulez de traitement de modification d'édition d'organisation d'une certaine manière de mes données ou de ce que j'ai recueilli. Et puis il y a d'autres phases où dans les phases d'interaction c'est beaucoup plus de recueil. Et moi là je pense qu'il y a vraiment des limitations liées à la concentration, à l'attention, d'où est-ce. Mais après que quelqu'un se concentre chez Starbucks ou mieux que chez lui, c'est à lui. Mais c'est le fait d'avoir une routine où c'est un lieu dédié à ça, un temps, un lieu dédié à ça. Ça, c'est ce qu'on a constaté. C'est lui qui a le mal.
Allô ? Oui. Bien. C'était donc Émilie Benville et j'invite ceux qui vont intervenir maintenant à se présenter en deux mots avant d'intervenir.
Bonjour, je suis Patrick Doucet, je m'intéresse à l'apprentissage des langues. Et je vous remercie de votre intervention, que j'ai trouvée pour ma part très très stimulante. Et vous avez décrit des tendances générales, et bien sûr, de façon perverse, je vais vous demander si vous pouvez nuancer. Et donc, je voulais savoir si ces processus attentionnels étaient généralisables en dépit des styles cognitifs, et donc si ces attentions, ces problèmes attentionnels et si ces pratiques fonctionnaient de façon indépendante des styles cognitifs. Avez-vous des données par rapport à ça ?
Honnêtement, j'en ai pas. Moi, je les ai pas recueillis et j'en ai pas vu. Je n'ai pas. Bon, sûrement, il existe quelque part et je les connais pas. Non, je ne sais pas. Moi, ce que j'ai fait, en fait, il y a tout un pan. Je peux montrer. J'ai analysé des accidents. J'étais très intéressée parce que j'ai eu une phase de ma vie où je m'occupais de facteurs humains. Donc, je m'occupais beaucoup de gros processus dans l'aviation, dans le. Et donc, vraiment, de problèmes d'attention, là aussi. Et donc, j'étais intéressée par des cas d'accident qui étaient dus. Il y a notamment un cas d'un accident de train aux États-Unis qui a fait 25 morts, c'était il y a 2-3 ans, où le conducteur, en fait, il y a eu un crash frontal. Et le conducteur, après, on a retrouvé qu'il avait envoyé 56 SMS dans les heures précédentes, en tout cas dans sa tranche de travail. Et donc, cela a donné lieu à une analyse, à des lois très sévères sur l'usage d'appareils personnels. Et pourquoi je mentionne ça ? Parce que en regardant bien, en épluchant les documents d'analyse, etc., je me suis rendu compte que le conducteur de l'autre train, qui n'avait pas du tout été inculpé, bon, lui, il était mort, le pauvre, mais avait envoyé 45 messages dans le même laps de temps. Et donc là, on commence à se dire, mais alors qu'est-ce qui se passe là ? Je dis, alors c'est pas un cas. Lui, avait été traité comme un freak, un type qui avait déjà eu des avertissements, etc. Et puis on se dit, oui, mais l'autre, il envoie 45. Alors je dis, il y a un pattern là quelque part. Et là, on peut commencer à. Donc cela est pour dire que. J'ai commencé à analyser qu'est-ce qu'il y avait dans la tâche, si vous voulez, dans l'activité qui faisait si que dans ce type d'activité, les personnes devaient de certaine manière se tenir éveillées ou se faire avec ou avaient de toute manière la possibilité, je veux dire, de envoyer des textes tout en conduisant leur train. Alors on sait suffisamment sur l'automation pour savoir que désormais. C'est plus Jean Gabin qui jette le charbon dans la locomotive. Je veux dire, ils ont un bouton quand ils arrivent à la gare, et puis le reste du temps, c'est juste la surveillance. Donc, ce que je veux dire, que ma tendance personnelle ne serait pas tellement de traiter ça en termes de style cognitif, mais d'interaction avec un contexte, si vous voulez, un système. Et donc, de me dire, mais qu'est-ce qui fait dans cette situation, comme la conduite, même celle de la voiture, etc., qui fait si qu'on puisse penser de pouvoir gérer, si vous voulez, des autres activités parallèles de ce type, etc. Donc, ma tendance serait celle-là, mais peut-être je suis trop.
Donc, c'est plutôt le contexte et l'outil qui va dicter,
oui,
la pratique.
Plus, mais je suis sûr qu'il doit y avoir des études sur ça, hein, mais je ne les connais pas.
Merci.
Excusez-moi, y avez-vous ? Oui.
Oui, bonjour, Aurore Martin, prochainement à l'Université de Poitiers. Là, vous avez parlé beaucoup des échanges à caractère privé qui, oui, interviennent dans le domaine du travail, oui, donc, oui, du professionnel. Mais l'inverse est aussi exact. On a, oui, aussi un problème d'exagération de l'introduction du professionnel dans la sphère privée, oui, et une difficulté de limite, de la limite entre les deux, non ?
Et en fait, tout mon étude, mes études autour de cette histoire de l'intimité au travail étaient parties justement parce que vous savez, c'était il y a 4-5 ans, je pense, où il y avait la manie du BlackBerry. Alors tout le monde disait CrackBerry, et les gens travaillent tout le temps, etc. Et ça m'énervait à un point parce que, en fait, en faisant des observations auprès des personnes justement qui n'étaient pas cadres supérieurs, qui n'étaient pas tout le temps sur l'avion pour New York, etc., moi, ce que je constatais, c'est que fondamentalement, il y avait assez peu de transferts d'appels, assez peu d'activités professionnelles après, justement, mais je constatais une grande activité privée sur le travail. Et en fait, il y avait eu toute cette mythologie de « Ah oui, on est tellement occupé, je passe mon temps à envoyer des emails professionnels tout en poussant mon landau, etc. » Alors que je constatais que fondamentalement, c'était l'inverse. Excusez-moi, je ne veux pas être provocant, mais et donc, je vais participer justement à une table ronde où justement on parlait de cet effet comme ça. Et je trouvais qu'il y avait vraiment une surestimation de l'un de l'autre. Et ça, c'était mes données, mais il y a eu une étude assez vaste qui a été faite en Australie, et justement sur le life, la vie, le balance professionnel, etc. Et ils ont retrouvé les mêmes données. En fait, le nombre d'appels et d'échanges professionnels était bien après les heures, si vous voulez, était bien inférieur à ce qu'ils attendaient. Et on avait par contre l'autre effet. Et encore une donnée intéressante. Il y a des Jonathan Donner qui a fait des études intéressantes en Afrique de l'Ouest sur les micro-entreprises. Vous savez, il y a tout un domaine qui pousse le Mobile for Development, donc de donner des téléphones mobiles pour aider le développement économique dans des pays émergents. Et il a dû écrire un papier pour expliquer à plein de ONG qui étaient super déçus parce qu'ils donnaient des téléphones, etc. Et puis ils disaient, mais il faut qu'appeler leur famille, ils n'utilisent pas autant qu'on pensait pour un développement. Et lui, il a expliqué, il disait, mais écoutez, de toute manière, je veux dire, pour une micro-entreprise, la sphère familiale, elle est essentielle, c'est le support essentiel pour le développement, je veux dire, qu'on prenne des femmes qui commencent des petites activités, la sphère familiale est essentielle, et de toute manière, je veux dire, les deux choses coexistent dans tous les milieux. Donc, pour vous dire que je pense qu'on a un peu surjoué l'aspect le travail occupe toute ma vie, et on a un peu sous-joué l'autre. Mais voilà, ça c'est ma vie. Et après, bon, quand on est étudiant, prof, etc., peut-être c'est différent.
D'accord, ça doit dépendre, j'imagine, des domaines d'activité. Mais dans l'apprentissage, on a quand même ce problème-là, c'est-à-dire l'interaction entre la vie privée et la vie professionnelle. Et souvent, dans les dispositifs, les apprenants ne savent plus où se situer, parfois les enseignants aussi. Souvent, on a ce problème-là, en fait.
Bonjour, Arnaud Deret, je suis étudiant sur le master IME. J'avais une question relative à l'âge, finalement, et aux tendances que vous décrivez. Est-ce que... Et j'ai l'intuition que finalement, les pratiques dépendent aussi pas mal de l'âge des individus. Est-ce que ces tendances sont communes à chacun des âges, ou est-ce qu'elles divergent? Est-ce qu'elles vont dans des sens différents?
Sur la question de l'âge, c'est intéressant parce qu'on a regardé, si on regarde les données sur la socialité, si vous faites, nous, ce qu'on, je ne les ai pas ici, mais on recueille beaucoup, on demande aux personnes de dessiner leur réseau social, c'est-à-dire qui est proche, etc. Et tout le monde s'attend que si vous avez 18 ans, c'est bourré de monde, etc. Pas du tout. Vous voulez trouver un beau réseau social bien touffu, vous prenez quelqu'un de 50 ans. Mais c'est évident. Il a vécu 50 ans, il a eu des collègues par-ci, des amis par-ci, etc. Je veux dire, l'ex-femme et sa famille. Vous prenez quelqu'un de 18, il a fait son... Non, il a fait... Donc, le problème, c'est ça. Je pense qu'il y a une mythologie relative par exemple, déjà, à la composition du réseau social qui est à la base, fondamentalement, énormément des hypothèses qu'on fait sur le comportement digital. Parce que si on part en disant, ben, c'est eux qui ont le plus d'amis, et donc c'est eux qui doivent utiliser tous ces canaux pour maintenir tout ce réseau, vous voyez le raisonnement. Mais si on commence à regarder objectivement, je veux dire, qui maintient quel réseau, etc., on se rend compte que c'est assez différent. Donc après... Après, il y a d'autres choses. Je veux dire. Après, il y a quelles sont les activités motivantes pour chacun et d'autres. Et puis, bah, il y a une connaissance. Mais si on regarde, je veux dire, bon, tout le monde, on sait tous, la grande croissance des derniers 24 mois sur Facebook, c'est plutôt les gens âgés. Justement, j'ai une autre étudiante canadienne qui a fait une étude sur les personnes âgées et Facebook et le rôle que ça a dans la reconnexion, etc. Donc là, on voit... On voit donc, moi, j'aurais la tendance à mitiger, dire plutôt que prendre l'âge numérique, si vous voulez, c'est d'analyser toujours ça en fonction du réseau social dans lequel les personnes sont. Et, excusez-moi, je finis sur la dernière chose. On a fait une petite étude avec des SDF, des homeless à Londres, parce que une de mes étudiantes travaille dans un shelter, là où ils viennent, un foyer. Elle voyait que la première chose qu'ils faisaient tous, ils allaient chercher la prise pour brancher. Et puis ils étaient jeunes, la plupart avaient moins de 30 ans. Et c'était très intéressant parce que en fait, on a été avec eux, ils vont beaucoup à la bibliothèque pour regarder Internet et pour être sur Facebook. Et on s'est rendu compte en faisant les maps sociales avec eux que, vous voyez mes cercles là, ils maintenaient un réseau assez vaste. Dans les weak ties, dans le cercle externe. Donc, ils maintenaient un réseau assez fort avec Facebook. Mais par contre, c'était pratiquement vide au centre. C'est-à-dire qu'ils avaient un contact. C'était un des deux parents ou quelque chose comme ça. Et ça a été assez illuminant parce que là, on s'est rendu compte que, en fait, leur exclusion sociale ne partait pas du réseau vaste, mais partait de la faiblesse de leur réseau proche. Et de nouveau, et ça c'était des jeunes. Donc ma tendance, c'est vraiment celle de dire bon, laissons de côté l'âge et partons du réseau social. Et ça va me déterminer beaucoup plus de et puis le contexte institutionnel. Gnagnagna. Voilà.
Merci. Dernière question. Oui, je vois qu'on fait signe là. Donc dernière question.
Bonjour, Paul Attani de Master IME2, deuxième année. Merci pour votre exposé donc, qui nous a permis d'en apprendre beaucoup sur l'attention. Moi, concernant l'attention, je dirais que c'est vraiment complexe pour moi, vu l'intervention des uns et des autres. Parce qu'il fait intervenir des notions comme le temps, le contenu, le lieu, on peut considérer l'environnement, l'état psychologique de la personne. Et donc ma question est-ce qu'on peut vraiment, c'est-à-dire, étudier l'attention et l'appliquer, pouvoir l'appliquer à une, généraliser voilà, l'attention, de se dire, voilà, donc pour qu'une personne puisse être attentionnée, il faut ceci, cela ou voilà.
Okay. Je suis d'accord avec vous. C'est très complexe. En plus, il y a eu vraiment beaucoup de. Il y a toute une traduction psychologique assez longue d'expérimentation, etc. Sur l'attention. Le but que moi je voulais, ce que j'ai envie de susciter un peu, c'est simplement de dire d'essayer de s'éloigner justement seulement du modèle du processus cognitif et dire bon, effectivement, l'attention. Et autour de la gestion de l'attention, et il me semble qu'il y a des processus sociaux qui sont vraiment importants. Et c'est ça que je voulais signaler. Et si on constate, en fait, si on regarde tous les gestes de contrôle, je veux dire, il y a autour du contrôle de l'attention, je veux dire, ça se manifeste dans une énormité de contexte social. Comment est-ce qu'on contrôle l'attention donc, mon but, c'est essentiellement de faire réfléchir autour de ce switch, de l'individuel, si vous voulez, au social, autour de ça. Moi, en ce moment, j'essaye de trouver comment est-ce qu'on peut étudier ça, justement, par exemple, en contexte professionnel. Il y a quelque chose qui me semble qui est en train de se passer. Justement, j'essaie de recueillir des données, comme je vous disais, celui de la semaine passée, sur le fait que, par exemple, il me semble que ce que nous sommes en train tous de vivre en passant 8-10 heures devant l'ordinateur, c'est des constants flux. C'est-à-dire on a des pics d'activité, puis on est fatigué, alors on fait autre chose. Et je rigole, disons, j'ai l'impression que c'est la cigarette qu'on ne peut plus fumer, on ne peut plus manger de chocolat. Le café, bon, c'est moyen. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je finis un paragraphe, je fais un petit email ou je fais quelque chose qui me remonte. Donc, on a l'impression qu'il y a ces phénomènes de flux. Mais je ne sais pas comment les étudier, honnêtement. Chaque personne avec qui je parle me dit, oui, c'est ça. En fait, ce n'est pas vrai que je passe trois heures ou quelque chose. Mais j'ai des flux constants. Ce qui est clair, et beaucoup de gens me disent, si on compare ça à un shoot, on commence à avoir besoin d'être shooté beaucoup plus souvent. C'est-à-dire, tout d'un coup, une fois, c'était tous les 20 minutes. Et tout d'un coup, là, j'ai 5 minutes et j'ai besoin d'un petit moment de... Donc, mais j'aimerais étudier ça. Et je ne sais, honnêtement, je ne sais pas comment le faire. Je pense qu'il y a des techniques sophistiquées de le faire, mais je ne sais pas comment le faire. Donc, c'est vraiment expérientiel, ce que je décris par rapport à ce que les personnes me racontent.
Bien, donc c'était la dernière question. Donc, merci beaucoup, Stéphania, de cette intervention qui... nous donne un cadre pour penser le reste de la semaine. Ah, c'est vous qui faites bip, d'accord. Pour terminer... c'est vous qui faites
oui.
Oui. Pour dire, avant que vous ne vous sauviez, et pourtant il faudra vous sauver vite car le rendez-vous reste fixé à 14h. Voilà. une dernière intervention, elle sera brève, et j'invite avec moi David Guèze pour vous présenter une installation. Ça fait partie de l'aspect culturel de notre programme, une installation qui s'appelle 2067 Télécom. Et je lui donne le micro.
Je vais juste brancher.
Oui, il faut qu'il branche son micro aussi. Non, au secours. Alors.
Ah ouais, c'est vrai.
Bonjour, alors je vais être un peu en... Très bien. Je vais un peu être en contrepoint avec tout ce qui s'est dit, puisque moi, en tant qu'artiste du numérique, je vais vous présenter une installation qui est dans le hall d'entrée, qui est le téléphone 2067 Télécom, qui part d'une série qui s'appelle la série 2067, où j'ai travaillé sur le réseau et le temps, et notre rapport au temps avec le réseau. Donc j'ai fait plusieurs projets, qui sont soit des sites web, soit des objets... soit des installations. Sur le principe, j'ai commencé un projet en 2006 qui s'appelle l'email dans le futur, et l'idée c'était d'envoyer à soi-même ou à quelqu'un d'autre un message dans le temps à partir de demain. Donc je peux envoyer un message dans deux jours, dans trois jours, dans une semaine, dans un an, jusqu'en 2067. Et donc j'ai travaillé sur cette notion d'attente, de désir et du réseau qui est lié à nous et aux autres, mais pas que dans le flux instantané, justement, c'était pour faire un petit contrepoint de la vitesse des flux, des réseaux sociaux, etc., pour mettre en place des dispositifs qui travaillent dans le temps et qui travaillent sur cette notion de désir et d'attente, puisque là, l'idée avec ce projet, par exemple, c'est j'envoie un email dans le futur pour le 31 mars 2015, par exemple, à une personne, et la personne reçoit tout de suite un message qui lui dit « tu as un message à cette date-là ». Avec un code, etc., etc. Mais voilà, ce projet tourne depuis 2006 et il y a déjà plusieurs dizaines de milliers de messages qui ont été envoyés. Donc je crois que j'ai vraiment 5 minutes, hein, donc je vais vraiment faire vite. Donc j'ai continué sur ce principe-là avec l'installation que je vous présente ici, qui est un téléphone qui ne permet à pas grand-chose dans le présent, simplement à laisser un message vocal. Donc c'est le même principe, mais c'est vocal. Donc vous décrochez, vous tombez sur un serveur vocal. Et si vous appuyez sur 1, vous pouvez laisser un message dans le futur à quelqu'un avec un code. Et si j'appuie sur 2, je peux écouter un message qu'on m'a laissé dans le passé. Donc je suis en train d'installer un réseau de cabines et de combinés téléphoniques en France et ailleurs, parce que j'aime aussi cette idée que le réseau, ce n'est pas seulement un écran et un ordinateur, mais c'est du land art numérique, ce que j'appelle du land art numérique. Donc je crée un réseau, un peu comme France Télécom, de cabines qui vont rester 30 ans, 40 ans, mais qui ne vont servir qu'à échanger dans le temps, en fait. Donc je vous enjoins à tester cette cabine. Et dans la série, j'ai travaillé aussi sur une radio. Donc là, le principe de la radio, c'est un peu différent, mais c'est quand même la même idée. J'ai transformé la ligne temporelle de la ligne qui permet de changer de fréquence en une ligne temporelle. Donc en tournant le bouton de la radio, je passe de 1900 jusqu'à 2010 et j'ai des playlists par année en fait. Et donc j'ai une radio qui devient un objet de mémoire comme ça, parce que je travaille aussi beaucoup sur, évidemment sur la mémoire. Donc là j'ai fait un partenariat avec Tivoli où on a fait une série limitée de 15 radios qui ont été hackées et qui permettent aussi de mettre ses propres playlists. Je suis en train de faire un partenariat avec le GRM, qui est le groupe de recherche musicale, pour faire une playlist un peu particulière pour leurs 60 ans de musique électronique. Et pourquoi pas des radios liées aussi à du contenu avec l'INA, puisque moi j'ai été chercher beaucoup d'infos sur les sites, beaucoup de playlists et beaucoup de morceaux, puisque ça peut être aussi des discours, ça peut être... Voilà. Donc il y a ce projet-là. Et le dernier projet que je suis en train de produire avec la Gaîté Lyrique à Paris, pour une expo en février et mars 2012... C'est une horloge à remonter le temps, et là c'est une horloge qui a été transformée et qui s'installe dans l'espace public ou privé, mais pour l'instant on va déjà en faire une pour l'espace public qui va être installée en permanence à la Gaîté Lyrique. C'est une horloge qui enregistre en permanence l'espace sonore, et quand je me place devant et je bouge la main, je fais tourner les aiguilles dans le passé, je peux réécouter une séquence du passé en fait. Donc c'est un objet un peu monumental qui s'inscrit dans un espace comme un objet de mémoire. Voilà. Si vous voulez plus d'infos... Mon site, c'est guess.org. Il est inscrit là. J'ai un blog. Enfin, voilà, j'ai aussi beaucoup d'autres projets. Mais, voilà. Eh bien oui, surtout, tester le téléphone. Il y a des petites cartes postales. Donc, vous laissez un message, vous laissez un code. Vous remplissez la petite carte postale et vous la donnez à la personne à qui vous avez laissé un message ou vous la gardez pour vous-même. Parce que j'aurai 100 ans et voilà, je me suis dit que après c'est bon.